Qu'avons-nous dit à propos de ce thème? Par révolution, on entend, en principe, une série d'événements très spectaculaires qui marquent une rupture dans l'histoire. Mais par ailleurs, une révolution en géométrie, c'est un tour sur soi-même. L'orbite décrit par une planète autour d'un astre, ou bien la rotation qu'elle opère sur elle-même, voilà une révolution. Autant dire qu'il s'agit de signaler en histoire tout à la fois une rupture, des événements plutôt soudains, violents, très spectaculaires, mais qui quelquefois ont une portée relativement limitée. On peut avoir une sorte de retour à la situation antérieure, au moins partielle, après une révolution qui est un moment de l'histoire. Par restauration, on entend soit un régime, soit une intention, qui est le rétablissement du passé, le retour à une situation antérieure, vue comme idéale, en tout cas toujours plus belle que la réalité, toujours idéalisée. Donc, ce sont des réactionnaires, la plupart du temps, qui portent ce projet. Ils rêvent d'un retour au passé assez impossible. En pratique, nous avons cité les incroyables et les merveilleuses, ces jeunes gens qui dédaignaient l'usage du R par haine pour la Révolution et tentaient, en 1815, en France, d'effacer les événements catastrophiques de leur point de vue, qu'avaient été les troubles de 1789, la République à partir de 1792, puis l'Empire. De la même manière, les rois Bourbons restaurés se sont intitulés de sorte à mettre entre parenthèses la période révolutionnaire, ce qui explique que le frère de Louis XVI se soit appelé Louis XVIII, comme si son neveu, mort en prison, avait pu régner. Voilà, la question portera sur le rapport entre révolution et restauration. En gros, la révolution française a-t-elle été effacée par une restauration subséquente? On peut deviner qu'elle, après avoir travaillé sur cette question, finira par répondre plutôt non. Mais il y a un S à révolution, un S à restauration, car il n'y a pas qu'une seule révolution à étudier dans ce chapitre. Il y a la révolution de 1789 et peut-être d'autres événements qui méritent d'être appelés des révolutions ailleurs ou après, voire en même temps. Pour les restaurations, c'est la même chose. Il y a eu plusieurs restaurations, ne serait-ce qu'en France, puisque aux Bourbons descendants directs de Louis XIV ont succédé des cousins, les Orléans, avant un retour assez éphémère au XIXe siècle à la République puis à l'Empire. Bien, voilà pour toute une partie de l'explication de vocabulaire que nous avons faite en classe. Normalement, tout ce que nous produisons comme activité en cours ne va pas figurer dans le cahier de texte et même à l'avenir, il devrait y avoir moins en moins de contenu parce que vous allez gagner en autonomie. Alors, le titre complet porte sur la France et l'Europe. Si nous reformulons ce qu'est la France à l'époque, entre 1789 et 1848, et ce qu'est l'Europe à cette époque-là également, il faut commencer peut-être par se tourner vers cette période que représente dans l'histoire universelle cet épisode 1789-1848. On voit que c'est la jeunesse de l'Europe, l'essor des idées de liberté, du sentiment de nationalité. Et dans cette époque-là, la France est un modèle puisqu'elle a fait la révolution sur le continent en premier. Dans le détail, c'est une révolution qui ressemble un peu à celle de l'Amérique et de la Grande-Bretagne, mais la portée en est plus grande car la principale monarchie, la plus ancienne monarchie, surtout européenne, a été renversée. Par la suite, la France est devenue une puissance économique, est restée une puissance militaire, a joui d'une grande influence culturelle. Tout ceci explique qu'elle fut un modèle, au moins pour les libéraux qui ont toujours cru que la France viendrait à leur secours en cas d'insurrection contre les rois, en oubliant que la situation de la démographie française a radicalement changé au cours du XIXe siècle, puisque le royaume de France était la petite Chine de l'Europe, et ce n'est plus du tout le cas dans les décennies qui suivent la Révolution française et l'Empire, où la réduction du nombre d'enfants par femme fait de la France un pays dont la croissance démographique est à peu près enrayée, C'est très différent de ce qui se passe chez les voisins, où les familles nombreuses sont de règle, au point que l'immigration sert d'exutoire. Quant à l'Europe, il est facile de se souvenir qu'elle se considère elle-même comme le centre du monde. À l'époque qui nous intéresse, c'est le début de l'industrialisation et d'une très longue époque où les puissances européennes ont dominé le reste du monde, au point donc d'y implanter des colonies politiques ou de peuplement un petit peu partout. Et l'Europe n'a pas vraiment de challenger, comme pourrions le dire en anglais, puisque les États-Unis, par exemple, se voient encore comme des pays de civilisation européenne. À cette époque-là, avant 1848, les spécificités de l'Amérique ne sont pas encore complètement aperçues. Autrement dit, pour comprendre bien le thème, il faut avoir, comme nous venons de le faire, réfléchi à ce qu'est une révolution, à ce qu'est une restauration, pourquoi on les emploie au pluriel en l'occurrence, et puis être capable éventuellement de caractériser ce que sont la France et l'Europe pour, si on devait rédiger une composition notamment, eh bien utiliser ces litotes plutôt que de recopier France et Europe. Ensuite, on a bien repéré les bornes chronologiques du sujet. 1789, prise de la Bastille, début de la Révolution en France. 1848, printemps des peuples, hein, série de révolutions en France, mais aussi dans toute l'Europe. Bien, maintenant, si nous voulons problématiser, il faut remarquer que les vrais mots importants dans cette intitulé, ce sont les conjonctions de coordination. Donc, en plus de la question du rapport entre révolution et restauration, est-ce qu'on est dans une période plutôt révolutionnaire ou plutôt dans une période de retour à l'ancien régime? La réponse est simple. Et est-ce que la France influence l'Europe ou est-ce que l'Europe, au contraire, voit la France comme l'anti-modèle, ce qu'il ne faut pas copier? Là aussi, c'est assez facile de distinguer les trônes, les monarchies européennes, les empires d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, évidemment, n'ont pas les mêmes intérêts que les peuples qui, eux, sont plutôt séduits hein, par les idées telles que l'idée d'État-nation, notamment avancée par la Révolution française, comme l'Europe est assez sensible tout de même aux qualités de l'unification du droit tel que Napoléon l'a imposé par la force jusqu'à l'Elbe. Ce qui veut dire que la Révolution française a une portée finalement très importante, d'abord sur le continent, parce que l'Europe occidentale va adopter le droit français, en gros, le code civil, et puis que les pays balkaniques ou les pays d'Europe de l'Est y viendront par la suite. Ce qui fait qu'aujourd'hui dans le monde, c'est un des deux systèmes de droit, avec celui de la common law anglo-saxonne, à être enseigné, par exemple, quand on veut faire du droit international. Il sera important de bien comprendre, donc, que deux questions nous sont posées. Est-ce que la révolution et les idées qu'elle porte s'imposent en France, ou bien est-ce que la restauration parvient à rétablir l'ordre ancien? Et est-ce que ce qui se passe en France est très particulier, propre au pays, et ne permet pas de dégager suffisamment d'influence pour inférer sur ce qui se passe à l'étranger, ou bien est-ce que toute l'Europe est peu ou prou contaminée par les idées de la Révolution française? Vous voyez que les questions sont suffisamment précises pour qu'on puisse répondre clairement, oui ou non, tout en ayant un point de vue nuancé, c'est-à-dire on peut dire en gros plutôt oui pour telle raison, plutôt non pour telle autre raison, et vous classez vos arguments dans un ordre logique, c'est-à-dire que vous défendez d'abord le point de vue qui vous paraît au final le moins probant. Si c'est plutôt non, vous allez d'abord donner les arguments qui vous permettraient de dire oui à une question duale, telle que les deux questions contenues par ce thème. Bien, alors je ne vais pas faire une petite capture de son à chaque fois, mais comme c'est la première leçon de l'année, et puis que Claudia n'est pas avec nous au premier trimestre, je pense peut-être utile de le faire quelquefois, et j'espère que cela vous sera une aide pour réviser vos cours. Merci à tous de votre attention.